Deuxième livre de Samuel, au chapitre 13. Et au verset 1er, nous ferons là une lecture relativement longue. Merci de la suivre avec attention. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur. Car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Shimea, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit, « Pourquoi deviens-tu ainsi chaque jour plus maigre, toi, fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire ?» Amnon lui répondit, « J'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. » Jonadab lui dit, « Mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, « Permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger. Qu'elle prépare un mets sous mes yeux afin que je le voie et que je le prenne de sa main. » Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le roi. Et Amnon dit au roi, « Je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire deux gâteaux sous mes yeux, que je les mange de sa main. » David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements, « Va dans la maison d'Amnon, ton frère, et prépare-lui un mets. » Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère, qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il dit, « Faites sortir tout le monde !» Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, « Apporte le mets dans la chambre et que je le mange de ta main. » Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Elle lui répondit, « Non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël, ne commets pas cette infamie. Où irais-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, par le roi, il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et lui dit, « Lève-toi, va-t'en. » Elle lui répondit, « N'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. » Il ne voulut pas l'écouter. Et appelant le garçon qui le servait, il dit, « Qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors et ferme la porte après elle. » Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amnon la mit dehors et ferma la porte après elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Absalom, son frère, lui dit, « Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi ? Maintenant, ma sœur, tais-toi, c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. » Et Tamar, désolée, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Deux ans après, comme Absalom avait les tondeurs à Baal-Hatsor, près d'Éphraïm, il invita tous les fils du roi. Absalom alla vers le roi et dit, « Voici ton serviteur à les tondeurs. Que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur. » Et le roi dit à Absalom, « Non, mon fils, nous n'irons pas tous, de peur que nous deux soyons à charge. » Absalom le pressa, mais le roi ne voulut point aller et il le bénit. Absalom dit, « Permets du moins, Amnon, mon frère, de venir avec nous. » Le roi lui répondit, « Pourquoi irait-il chez toi ?» Sur les instances d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous ses fils. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. « Faites attention, quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin, et que je vous dirai, frappez Amnon, alors tuez-le. Ne craignez point, n'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez fermes et montrez du courage. » Les serviteurs d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné, et tous les fils du roi se levèrent, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Et au verset 38, il dit, Absalom resta 3 ans à Geshur, où il était allé après avoir pris la fuite. Le roi David cessa de poursuivre Absalom, car il était consolé de la mort d'Amnon. Amen. Il y a drôle d'histoire dans la Bible, vous ne trouvez pas? Une sordide histoire, une triste histoire. Mais c'est dans la parole de Dieu. Bien sûr, la parole de Dieu n'approuve pas de tels comportements. Mais vous voyez, quand on lit la Bible, il faut faire la différence entre ce que la Bible relate. Elle raconte les faits, crûment, comme ils se sont déroulés, ce que la Bible relate et ce qu'elle enseigne. Dans le livre du Lévitique, qui fait partie de la loi que Dieu a donnée à Moïse, eh bien Dieu interdit de telles unions incestueuses entre frères et sœurs. Et ici, en plus d'une relation incestueuse, il s'agissait d'un viol. Alors j'ai beaucoup hésité à traiter ce thème. J'espère que le Seigneur m'a inspiré. Et je voudrais, voyez, au travers de ce texte, aborder la question des abus, dont beaucoup, hommes ou femmes, ont été victimes, parfois, souvent d'ailleurs, quand ils étaient enfants ou adolescents. Souvent, ces faits, comme ici, se déroule au sein du milieu familial au sens le plus large. Et pourrions dire, oui, mais nous sommes des chrétiens, certes, mais les chrétiens ne font certainement pas exception. Alors, pour tous ceux qui pourraient avoir subi, avoir été victimes de tels abus, je veux vous annoncer une bonne nouvelle. C'est qu'il est possible d'être guéri dans son âme. Alléluia. C'est qu'il est possible d'être guéri dans son cœur, dans son être psychologique, par la puissance de l'amour de Dieu, même lorsqu'on a vécu un tel drame, car c'est un tel drame. Jésus a dit dans les évangiles, « Je suis venu guérir les cœurs brisés. » Je suis venu guérir les cœurs brisés. Alors que ces moments et les temps de prière qui suivront peut-être la prédication, participent à cette guérison. Analysons les faits et tirons-en quelques leçons. Dans le verset 12 et 13, eh bien, nous avons, n'est-ce pas, ces paroles de Tamar qui dit « Non, mon frère, ne me déshonore pas, n'agis pas ainsi en Israël. » Où irais-je, moi, avec ma honte? Où irais-je, moi, avec ma honte? Elle fut la plainte de Tamar. Et c'est vrai que le fait d'avoir été victime de tels abus produit de la honte chez ceux qui en ont été victimes. Paradoxalement, ça produit du dégoût, et même du dégoût de soi. Ce récit ne dit pas expressément ce qui s'est passé par la suite pour Tamar, mais à la lecture du verset 20, on peut penser, on peut supposer, n'est-ce pas, Tamar désolée demeura dans la maison d'Absalom, son frère, qu'elle est restée recluse. Recluse et célibataire. Elle a vécu après cela une vie certainement bien, bien misérable. Voyez, souvent on remarque ceci, c'est que la victime se sent coupable. Et parfois le vrai coupable exploite, tire parti de cette culpabilité chez sa victime, en l'accusant, c'est ta faute, tu m'as provoqué, c'est toi qui m'as séduit, tu étais consentant. Alors, si vous avez vécu, subi de telles choses, je voudrais vous dire ceci, c'est que vous n'êtes pas coupable le moins du monde. Vous êtes victime. Et il faut refuser cette culpabilité qui est une fausse culpabilité. Il y en a de vraies culpabilités. Quand on a péché, à juste titre, on se sent coupable. Mais ça, c'est différent. Et en ce qui vous concerne, concernant cette affaire que peut-être vous avez vécue d'une manière ou d'une autre, pour certains tout au moins, vous n'avez pas à vous repentir. Vous n'avez pas à solliciter le pardon de Dieu. Il faut, n'est-ce pas, réaliser que vous n'avez pas commis de faute et que l'on a commis une faute à votre égard, envers vous et contre vous. Et comme nous le disions au début de cette réflexion, il faut laisser le Seigneur passer par là. Vous n'avez pas besoin que Dieu vous pardonne, vous avez besoin que Dieu vous restaure et que Dieu vous donne de retrouver l'estime de vous-même que peut-être, du fait de cet événement, vous avez perdu. L'attitude d'Absalom, frère de Tamar, et l'attitude de David, qui était le père de Tamar, a été déplorable. En dessous de tout. Regardez comment il lui parle, Absalom. Tais-toi ! Tais-toi ! Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Voilà. On étouffe. On cache. On minimise. Et ça arrive souvent dans les familles, par peur du scandale. On veut, comme on dit, laver le linge sale en famille, et souvent on ne le lave pas du tout. Hein? Il y a parfois aussi de la part de la victime un refoulement personnel. On enfouit ces choses au fond de soi en se disant « mais c'est une vieille affaire ». Ça ne résout rien d'essayer d'enfouir les choses. Il faut les aborder, les traiter à la lumière de la grâce divine, les exposer à Dieu et lui demander de faire œuvre de guérison en profondeur. Il faut verbaliser les faits, c'est-à-dire dire à Dieu ce qui s'est passé. Ah, il le sait, oui, certes, il le sait. Mais le psalmiste qui a rédigé le psaume 142 dira ceci, « Je répands ma plainte devant lui, je répands ma plainte devant lui, je lui raconte ma détresse. » Vous savez que c'est bon de dire à Dieu ce qu'on a dans le cœur. On va dire, mais il sait toute chose. Mais ça ne suffit pas de dire, il sait toute chose. Il faut laisser le Seigneur opérer en nous et lui raconter ce qui s'est passé. Quant à David, ce n'est pas mieux. Le texte nous dit, il a pris toutes ces choses et il fut très irrité. Voilà, et les choses en sont restées là. L'indignation est justifiée, mais elle ne suffisait pas. Il aurait fallu des actes de justice. Un châtiment était prévu par la loi de Moïse. Elle ordonnait cette loi dans de tels cas. Et en tant que père et en tant que roi, David, je le répète, a aidé en dessous de tout. Notez que certainement il était mal à l'aise. Il n'était plus le modèle qu'il aurait dû être. Il avait perdu son autorité paternelle et même son autorité royale. Rappelez-vous ce qui s'était passé dans l'affaire de Bathsheba, ce scandale, l'adultère, le meurtre de Uri, le Héthien, le mari de Bathsheba. Alors, n'est-ce pas, peut-être bien est-il gêné aux entournures, hein? Hésite-t-il à faire justice parce qu'il se sent lui-même coupable. Ce silence, ce mutisme, cet étouffement de l'affaire, rendent coupables ceux qui connaissent les faits et ne les dénoncent pas. Voilà, il faut que vous sachiez cela. Le mutisme, le silence dans de tels cas, l'étouffement de l'affaire rendent coupables ceux qui connaissent ces faits et ne les dénoncent pas. On dit, et on va y venir tout à l'heure, il faut pardonner, certes, mais le pardon que l'on accorde dans notre cœur ne s'oppose pas forcément à la dénonciation et la sanction du coupable. D'autant plus que ceux qui ont commis de telles agressions, de tels actes, sont tout à fait capables de reproduire les mêmes choses à l'égard d'autres victimes. Si vous étiez ou si j'étais témoin d'un meurtre, hein, et que nous connaissions le meurtrier, nous ne nous ferions pas de cas de conscience, de le signaler, d'en témoigner auprès des autorités compétentes, la police, la justice, etc. Je signale que, en ce qui concerne les pasteurs, puis les prêtres aussi, Dans ce cas-là, le secret professionnel, le secret de la confession ne s'applique pas. Nous sommes tenus par une obligation légale de la loi française d'en informer les autorités. On sait que dans d'autres communautés chrétiennes, au sens large, eh bien, on a négligé cette obligation légale, on a tu, on a caché, on a voilé, avec toutes les répercussions que cela a eues par la suite. Un tel acte s'apparente à un crime. Ben oui, un crime. On tue quelque chose chez la victime. Vous voyez, Tamar, parole de Dieu nous dit que c'était une jeune fille, elle était vierge, et on a tué sa pureté. Tamar a tué, comment dire, son innocence. Et c'est tout particulièrement le cas quand ce sont des enfants qui sont concernés, quand on leur impose cette souillure, on brise quelque chose. L'avenir est terriblement compromis, et la vie affective risque d'en être profondément perturbée. Excusez-moi de dire ce que je vais dire, je ne voudrais pas être inconvenant, mais vous savez, même une fois marié, quand il se marie, les gens qui ont été victimes de tels abus peuvent parfois éprouver une répulsion instinctive, même quant aux relations conjugales légitimes. Parce que dans leur moment d'intimité avec leur conjoint, eh bien, tout le passé ressurgit et il y a une espèce de répulsion. Je voudrais dire ceci aussi, parce qu'il faut aborder ces questions parmi même les chrétiens. Mes frères, mes amis, je m'adresse particulièrement aux hommes. Une femme n'est pas un objet destiné à assouvir nos fantasmes. Même dans le cadre des relations sexuelles entre mari et femme, il y a des pratiques normales, naturelles, et d'autres qui ne le sont pas. Et on peut parfois parler de viol conjugal. N'est-ce pas pour cette raison, entre autres, que dans l'Épître aux Hébreux, il est dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Parlons maintenant du pardon. Quand on a subi de telles choses, de tels abus, le pardon n'est pas la négation de la souffrance. Voilà. La souffrance, il ne faut pas la nier. Il ne faut pas la minimiser. Mais il faut aussi comprendre que le pardon n'est pas non plus un aveu de faiblesse, n'est pas une défaite, n'est pas une lâcheté, tout au contraire. Et puis le pardon favorise, participe au processus de guérison intérieure dont on a besoin. Il peut être nécessaire quand c'est possible et quand on en trouve le courage d'aller trouver le coupable ou lui écrire peut-être pour lui dire, car il faut qu'il le sache et en prenne pleinement conscience, combien il nous a fait souffrir. Quel dommage la gravité de son acte a eu. Quelle répercussion il a eu dans notre vie et que, qui sait, peut-être, suite à ce que nous lui dirons, il puisse se repentir, lui aussi, ou elle aussi, et soit également sauvé. Le pardon, voyez-vous, c'est vrai dans de tels cas, c'est vrai dans d'autres domaines, c'est d'abord un choix qui nous incombe. Un choix qui nous incombe. Je décide. Je prends la ferme résolution. Je fais ce choix de pardonner plutôt que de cultiver en moi-même des ressentiments, plutôt que de cultiver en moi-même toutes sortes de pensées négatives. Et quand nous faisons ce choix, nous pouvons nous attendre à ce que Dieu nous vienne en aide afin que le pardon devienne effectif. Pour que nous recevions de lui cette force, la capacité de pardonner réellement et du fond du cœur. C'est lui qui va nous donner cette force. À condition que nous, au départ, à la base, nous ayons pris la décision de pardonner. Ça ne veut pas dire qu'on pourra perdre la mémoire. Ça veut dire que le souvenir cessera de nous torturer. Je me souviens de ce frère maintenant c'est un homme âgé, et qui a vécu une drôle de vie. Ses parents tenaient une boîte de nuit, et pire que ça, où il se déroulait des scènes épouvantables, je ne vous fais pas un dessin, et tout enfant, il a été plongé dans ce milieu. Si bien que sa vie a chaviré, vous voyez, il est devenu par la suite un véritable gangster, et il me disait, tout ce qu'on lit dans les romans policiers, j'ai vécu cela, moi. La prostitution, le vol, le crime, etc. Et quand il s'est converti, car il s'est converti, gloire à Dieu, il est même devenu serviteur de Dieu, eh bien le Seigneur a agi profondément en lui. Il me disait, voyez-vous, j'ai pas perdu la mémoire. Je ne suis pas devenu amnésique quant à ce que j'ai vu ou ce que j'ai entendu, mais le souvenir a cessé de me faire souffrir. C'est ça le miracle. C'est ça la guérison. Et c'est ce que Dieu peut produire, ce qu'il veut produire, et que nous recevons lorsque, eh bien, nous nous approchons du Seigneur. Il est évident aussi, disons-le en passant, que si quelqu'un a été, non pas victime, mais coupable cette fois, s'il a commis un tel acte, bien sûr, avant de se convertir, il doit s'en repentir, tout spécialement devant Dieu, certes, mais également de venir demander pardon à sa victime, même si cela s'est produit il y a bien longtemps. On pourrait dire, oui, mais il a sûrement oublié. Certainement, elle n'y pense plus. Non. Des choses comme ça, mes amis, sont gravées au fer rouge dans la mémoire. Comprenons aussi que la haine entretenue est destructrice. Voyez, Absalom, le frère de Tamar, puisque Amnon n'était que le demi-frère, Absalom, sa haine l'a dissimulée. Et 2 ans après, la vengeance est un plat qui se mange froid, paraît-il, eh bien, il a commis un meurtre sur la personne d'Amnon, son frère. Ça n'était pas un acte de justice légale, c'était plutôt une vengeance personnelle. Vous savez que l'Écriture dit que celui qui hait son frère est un meurtrier. Et Absalom, ce garçon haineux, je n'ai pas le temps de développer le sujet, a lui-même mal fini. En conclusion, vous voyez, je ne serai pas très long ce matin. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, au verset 16, le Seigneur se rend dans la synagogue de Nazareth et il ouvre ce passage prophétique que l'on trouve dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 61. Voilà, dans l'évangile de Luc, chapitre 4, verset 16, Jésus reprend un texte de l'Ancien Testament, Ésaïe, chapitre 61. Un passage prophétique. Un passage qui concerne la personne du Christ, du Messie. Et il se l'applique à lui-même, parce qu'il est le Messie. Parce que c'est en lui que les promesses messianiques se réalisent, s'accomplissent. Et voici ce qu'il dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé, j'ai cité ce verset tout à l'heure, guérir les cœurs brisés. La mission du Seigneur, l'ordre de route que son père lui a communiqué, c'est de guérir les cœurs brisés. Et aujourd'hui encore, par l'Esprit Saint qu'il a reçu de la part du Père et qu'il répand désormais sur ses disciples, il communique la guérison. La guérison qui est une des conséquences de l'œuvre de rédemption accomplie à la croix du calvaire, n'est-ce pas ? On connaît ce texte d'Ésaïe 53 où il est dit qu'il a porté nos douleurs, il a pris sur lui nos infirmités, que dans ses meurtrissures nous avons été guéris. Certes, cela concerne la souffrance physique, mais cela concerne aussi les souffrances morales, les blessures de l'âme. Et peut-être, au milieu de nous, y a-t-il quelqu'un ce matin qui porte une secrète douleur en lui-même. Les choses, vous les avez cachées, vous les avez enfouies, vous n'en avez jamais parlé à qui que ce soit, mais elles vous poursuivent. Ces souffrances qui longtemps ont été tues doivent être guéries. Elles peuvent l'être. par le pouvoir de Jésus-Christ. Il a la capacité de faire cela. Je me souviens de cette chrétienne que nous avons connue dans une assemblée où servions le Seigneur. Elle avait vécu un tel drame dans sa petite enfance. Et puis par la suite, elle s'était mariée avec un gentil garçon. Elle s'était convertie. Son mari aussi était converti. Ils avaient deux jeunes enfants. Tout allait bien entre eux, voyez. C'était un mari attentionné, plein d'affection, de tendresse à l'égard de son épouse. Mais en dépit de tout ce qu'il pouvait faire ou essayer de faire, il ne parvenait pas à la tirer d'affaire. Elle était plongée dans son marasme intérieur, voyez. Pour oublier son angoisse, elle se gavait de médicaments antidépresseurs ou quelque chose comme ça pour somnoler toute la journée et pour ne plus penser. Et même son aspect physique, voyez, elle avait pris un coup. Mais le Seigneur est passé par là. Alléluia. Le Seigneur est passé par là. Et aujourd'hui, cette jeune femme, elle est guérie, elle est épanouie, ça se voit même physiquement. Non pas seulement son sourire qu'elle a retrouvé, non pas seulement, eh bien, parce qu'elle a renoncé à toutes ces drogues auxquelles elle s'est donnée, mais parce que le Seigneur est intervenu. Et puis, vous savez, il n'y a pas que les abus sexuels, il y a aussi la maltraitance, les violences physiques, verbales, psychologiques qu'on a pu subir, le harcèlement scolaire ou professionnel. Vous avez des gens qui sont de véritables souffre-douleurs dans le milieu où ils évoluent. Il y a des gens qui ont été frappés, qui ont été humiliés, qui ont été rejetés, qui ont été trahis, qui ont été abandonnés, qui ont été méprisés par un père, par une mère, par un conjoint, par un ami. C'était il y a longtemps, oui, mais ça vous a marqué au fer rouge et vous vous en souvenez comme si ça s'était produit hier. Dans une assemblée, nous servions le Seigneur, il y avait un garçon de mon âge, j'avais 36 ans à cette époque-là, et nous nous étions connus tout adolescents, voyez. Si bien qu'il y avait une certaine liberté envers nous. Mais ce garçon avait un caractère épouvantable. Épouvantable. Alors un jour, je m'en suis expliqué avec lui. Je lui ai dit, mais Gérard, comment est-il possible que tu puisses réagir comme ça? Même quand les gens vont être sympathiques à ton égard, toi, tu es un véritable porc épic. Tu es désagréable, tu es misérable, tu as un caractère imbuvable. Qu'est-ce que c'est qui fait que tu sois comme ça quand même? Même lorsqu'on essaie de te faire du bien, toi tu réagis négativement. Alors il m'a ouvert son cœur, m'a dit, tu sais, pendant des années, alors que j'étais tout enfant, mon père m'a seriné ce refrain, tu es un bon à rien. Tu ne feras jamais rien de bon dans ta vie. Et il m'a répété cela. Et quelque part, eh bien, ça m'a tordu l'esprit. Vous voyez, ce garçon avait besoin de guérison. De guérison parce qu'il s'agissait là aussi d'un abus, non pas sexuel, non pas physique, mais psychologique. Et quelque chose s'était brisé en lui. Voilà, on connaît l'histoire de Nicky Cruz, hein, cet ancien gangster, cet ancien membre de gang à New York. Comment est-il devenu comme cela? Eh bien, quand il rend son témoignage, il dit qu'alors qu'il avait 8 ans, sa mère, qui était une véritable sorcière, l'a maudit en lui disant, tu n'es pas mon fils, tu es le fils de Satan. Et il dira, eh bien, ce jour-là, ma mère m'a tué, non pas physiquement, mais en lui, il était tué, jusqu'à ce que le Seigneur passe par là et le ressuscite. Alléluia. Et le ressuscite. Et même quand on lit la suite de son histoire, même après sa conversion, des années après, alors même qu'il était prédicateur de l'Évangile, il a fallu que Dieu poursuive son travail dans sa vie intérieure pour qu'il puisse accorder le pardon à cette mère qu'il avait fait tant et tant souffrir. Alors, je ne sais pas, vous voyez, je suis peut-être ce matin comme Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert. Et peut-être, même sûrement, au milieu de nous, il y a des gens qui ont besoin d'être guéris par l'amour de Dieu. Par l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu a une vertu guérissante. Alléluia. L'amour de Dieu a un pouvoir de restauration. C'est tellement bon quand Dieu entre en contact avec nous et qu'il nous révèle tout cet amour. Tout cet amour. C'est pas... dans la Bible, il y a l'histoire de l'apôtre Jean. Et vous avez remarqué dans l'évangile de Jean, l'apôtre Jean ne se désigne jamais lui-même par son nom. Il dit « le disciple que Jésus aimait ». Eh bien, ce matin, je voudrais vous dire que chacun de nous, nous sommes, vous êtes, je suis le disciple que Jésus aime. Le disciple que Jésus aime et auquel il veut faire du bien. Alors nous allons terminer ces moments très simplement en priant le Seigneur. En priant le Seigneur. Bien sûr qu'il n'y a, il n'y aura au plus, aucune obligation, aucune contrainte. Mais si quelqu'un peut-être souhaite que l'on prie en sa faveur, parce qu'intérieurement son cœur est brisé, vous pouvez vous approcher là et nous demanderons au Seigneur de vous accorder sa grâce et de vous faire du bien. Alléluia. Prenons quelques instants. Voyez, il est 11h25, on a encore 5 ou 10 minutes. On peut se permettre ça quand même. On peut prendre un peu de temps dans la présence de Dieu. Prions ensemble.